Voilà, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bienvenue, bienvenue. Dieu vous bénisse parmi nous ce matin. Alors, il y a 3 semaines, nous avons vu ensemble la nécessité de développer cette intimité avec Dieu, la nécessité de ce face-à-face à partir duquel, en fait, notre vie doit découler, tout dans notre vie doit pouvoir découler de cette intimité qu'on a avec Dieu. Et nous avons vu qu'en tant que chrétiens, nous sommes si souvent intéressés plutôt par ce que la main de Dieu nous donne que par sa face. Nous ne nous préoccupons pas des émotions de Dieu, de ce que lui pense, de ce que lui veut. Nous sommes juste intéressés par ce que lui peut nous donner. Et nous avons vu qu'en agissant de cette manière-là, nous pouvons avoir des bénédictions, entre guillemets, empoisonnées. Parce que Dieu peut nous donner sans pour autant être avec nous. Et c'est dommage. Et ensuite, il y a 2 semaines, nous avons considéré ensemble le fait d'être assoiffé de Dieu, d'être un homme, une femme passionnée de Dieu, quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui aime ce que Dieu aime. Ah, il n'y a personne qui dit Amen, hein? Jésus nous a dit que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, c'est bien déjà, mais il nous dit que nous pouvons aller encore un peu plus loin. Parce qu'il dit que tout le monde fait pareil, en fait. Quand vous regardez dans le monde, même au milieu de ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, ils aiment ceux qui les aiment, ils haïssent ceux qui les haïssent. Mais Jésus nous dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables, par la grâce et la présence de son Esprit en nous, d'aimer ceux et celles qui ne nous aiment pas, même de prier pour eux, de les bénir, de dire du bien d'eux. Et ça nous embête parce que nous avons cette habitude revancharde, nous avons envie de nous venger par nous-mêmes. Et Jésus nous dit non, la rétribution et la vengeance appartiennent à Dieu. Et ce matin, j'aimerais toujours continuer dans cette même lancée, voir avec vous, j'ai intitulé mon message pour un rafraîchissement spirituel. Pour un rafraîchissement spirituel. Nul besoin de vous rappeler en tant qu'enfant de Dieu qu'il peut nous arriver à tout un chacun de passer par des moments difficiles, de passer par des moments où on se demande même s'il est encore avec nous, ce Dieu, si bon et bienveillant. En tant qu'Église aussi, on peut passer par des moments douloureux, des moments qui nous donnent parfois envie de ne plus avancer. Et il est important de voir que le rafraîchissement spirituel n'est pas quelque chose qui est donné à la naissance comme nos gènes, c'est quelque chose qui doit se cultiver. Vous savez, moi je suis surpris, certainement dans cette salle, il y a plus d'une personne qui se sont converties avant moi. Ça fait des années, peut-être même des décennies qu'elles sont chrétiennes. Et moi, ce qui me surprend, c'est que quelquefois on a l'impression que dans la vie chrétienne, tout est acquis. Ça y est, on a Dieu, on est sauvé. Non, ça c'est la religion, ça. Ça c'est la religion où quand on fait ses sacrements, ça y est, c'est fini. On est arrivé. Mais la Bible nous dit, Jésus en particulier nous dit que nous sommes appelés à persévérer jusqu'au bout. Quand on dit persévérer, ça implique quoi? Ça implique des moments difficiles qu'il va falloir franchir, qu'il va falloir traverser. Et Dieu est avec nous pendant ces moments-là. Donc, on a besoin de cette fraîcheur spirituelle, continuelle. Eh bien oui, ce n'est pas une option, frères et sœurs. On peut croire on peut penser que, ben non, ben moi ça suffit, le dimanche je suis au firmament, et puis de samedi à, je ne sais pas, de samedi à samedi, admettons, non, je ne sais pas, de samedi à quel jour, hein, de lundi à samedi, disons. De lundi à samedi, ben ça y est, ben non, je suis là, dans ma petite vallée, je suis tranquille, c'est bon, voilà. Moi, j'aime bien aller dans les parcs d'attractions. Voilà, mon attraction préférée, c'est la montagne russe. Je fais ça, ben voilà, je suis tranquille. Ah ben oui. Non, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui tiennent en lui, non pas par nos forces, mais en lui. On tient en lui. Et pour un temps, pour un rafraîchissement spirituel, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il faut savoir prendre position pour Christ. Ça vous étonne, mais où est le rapport avec le rafraîchissement et prendre position pour Christ? La première chose, c'est qu'il faut savoir prendre position pour Christ. Et nous allons retourner dans l'Ancien Testament. C'est une histoire qui est bien connue, un épisode du royaume d'Israël qui est bien connu, avec le roi Akab, que tout le monde ici déteste. Mais comme Jésus vous a dit d'aimer même vos ennemis, vous aimez Akab. Hein? Ça, c'est merveilleux. Et on va lire tout de suite un texte dans un roi. Il est question d'un homme appelé Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad dit à Akab, donc le roi d'Israël, en ce temps-là, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est terrible, ça. On a besoin de la pluie. Vous savez, même quand on est fatigué de tondre parce qu'il pleut tout le temps, en même temps, on est fatigué de ne pas tondre parce qu'on voit notre pelouse qui est en train de se dessécher. On aime mieux avoir une pelouse verte, oui ou non? Eh bien oui. Un homme appelé Élie se présente devant un roi souverain qui a le droit de lui donner la mort ou de lui laisser la vie, et il vient lui annoncer une parole. Et ce qui est intéressant dans ce que nous venons de lire, c'est que nulle part ailleurs avant, Élie n'est marqué. Élie apparaît comme quelqu'un qui tombe du ciel comme ça. Il se présente devant le roi pour lui annoncer une nouvelle qui n'est pas favorable. Il lui dit, mais écoute, je suis venu t'annoncer la fermeture du ciel. Je suis venu t'annoncer la sécheresse. Et vous savez que dans ce temps, nous aujourd'hui, quand on nous parle de la sécheresse, on nous parle de manque de pluie, on se dit, on pense à tous les moyens d'irrigation qu'on a. Non, ça n'existait pas ça à l'époque. Ça n'existait pas. Et la majeure partie du peuple vivait de la terre. Quand la terre ne pouvait plus rien donner, il s'en suivait ce qu'on appelle la famine. Ce n'est pas la faim, mais la famine. Donc quand le ciel était fermé, cela veut dire qu'il y avait des conséquences pour la vie du peuple. Pourquoi est-ce que Dieu envoie Élie? D'où sort-il? Il dit qu'il est le serviteur de Dieu. Depuis quand est-il le serviteur de Dieu? Dans son lieu secret. Élie a reçu la parole de Dieu dans son lieu secret, dans son face-à-face avec Dieu, dans son intimité avec Dieu. Il reçoit la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu veut fermer le ciel sur Israël? Il faut retourner un peu plus loin. Vous savez que le premier roi d'Israël, Saül, a été déchu par Dieu à cause de sa désobéissance. Ensuite est venu David, un homme qui a fait des erreurs, mais dont Dieu a toujours dit qu'il était un homme selon son cœur. Malgré toutes les erreurs qu'il a faites, la particularité de David, c'est que c'est le seul roi qui a obéi parfaitement à tout ce que Dieu lui a demandé. Et Dieu ne cessera de le répéter. Ensuite est venu son fils Salomon, à qui Dieu a donné une sagesse sans pareille, une sagesse légendaire. Salomon était connu de tous les royaumes comme étant un roi sage, comme étant un roi doté d'une sagesse qui n'était pas naturelle. Mais ce roi Salomon, qui aura bien commencé malgré les deux visions, les deux apparitions de Dieu, malgré le fait que Dieu, pendant les apparitions, va lui dire, écoute Salomon, il faut que tu obéis complètement à toutes mes lois et à toutes mes ordonnances. Salomon, vers la fin, parce qu'il va s'attacher à des femmes étrangères, il va prendre des épouses, des concubines, dans les pays, les royaumes où Dieu avait dit, ne vous mélangez pas, parce que le risque de vous mélanger, c'est que vous allez finir par adopter leur Dieu. Salomon, vers la fin de sa vie, la Bible dit qu'alors qu'il est vieux, eh bien, il va céder à la demande de certaines de ses femmes qui étaient étrangères, qui avaient d'autres dieux. Il va bâtir des hauts lieux pour elles et il va avoir l'adoration pour les dieux étrangers. Salomon, qui avait si bien commencé, il va mal terminer. Il va mal terminer parce qu'il a pris à la légère l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, parce qu'il a pris à la légère toute la loi que Dieu avait donnée par son serviteur Moïse. Alors Salomon va laisser en fait une boule puante à son successeur, ou du moins à ses successeurs. Parce que tout de suite après Salomon, le royaume ne va plus rester un seul royaume. Il va se diviser en deux royaumes. Et vous savez qui c'est qui va occuper le royaume d'Israël, les 10 tribus? Ça va être quelqu'un qui n'est même pas issu de la lignée de David, Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon. Parce que Dieu veut justement faire quelque chose en Israël pour qu'il sache qu'il est toujours Dieu. Et nul besoin de vous rappeler ici tout ce que Jéroboam a fait en Israël. Il a construit des hauts lieux. D'abord, il a fabriqué de veaux d'or. Il en a mis un à Bethel, l'autre à Dan, pour que les gens adorent. Il a construit des hauts lieux, Salomon. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a même pas respecté l'alliance qu'il y avait entre Dieu et le peuple d'Israël, qui disait que tous ceux qui devaient être sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi. Jéroboam a choisi des prêtres, des sacrificateurs parmi le peuple, n'importe comment, sans tenir compte de la parole de Dieu. Alors qu'à lui aussi, Dieu lui avait dit, écoute Jéroboam, si tu restes fidèle à ma parole, à mes ordonnances, je rendrai ta maison stable. Mais Jéroboam va échouer parce qu'il a peur que la lignée de David vienne lui reprendre le royaume du Nord. Alors il va faire les choses à sa façon et il va profaner toute la sainteté de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Il va idolâtrer le peuple et le peuple va adorer des veaux d'or. Et nous savons que depuis ce jour-là, il va s'instaurer, ou du moins s'installer, une instabilité dans le royaume d'Israël. À cause de cela, on peut dire que c'est Jéroboam, mais les choses ont quand même commencé avec Salomon. Et puis là, on va arriver au fur et à mesure jusqu'au roi Akab. Entre Jéroboam et Akab, il ne se passe même pas un siècle, environ 80 ans, entre Jéroboam et Akab. Akab est ce roi qui lui aussi, plutôt que peut-être de rétablir les choses, ben il va faire quoi? Ben il va exactement faire une alliance avec un royaume étranger et il va aller épouser une femme étrangère appelée Jézabel. Cette Jézabel, quand elle va devenir reine, elle va imposer au roi Akab d'adorer les dieux de son royaume, Baal et Astarté, et ainsi conduire le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Frères et sœurs, à cause de cela, Dieu va susciter un homme qui n'était pas connu, Élie. Il va lui dire, va parler à Akab. Dis-lui que je ferme le ciel. Dis-lui que c'est la sécheresse désormais. Dis-lui qu'il n'y a plus de fraîcheur spirituelle en Israël parce qu'ils ont profané tout ce qui est saint, parce qu'ils n'ont pas eu égard à mon alliance que j'ai faite avec le peuple d'Israël. Et là, Dieu va donc fermer le ciel. Il va demander à Élie de fermer le ciel. Et nous savons qu'au bout de 3 ans et demi, Dieu va renvoyer Élie, le même Élie, devant Akab pour lui dire, va annoncer la pluie maintenant. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Comme je vous disais, en ce temps-là, lorsqu'il n'y avait pas d'eau qui tombait du ciel, c'était la calamité et c'était la famine. Les gens ne pouvaient plus avoir de quoi vivre, de quoi se nourrir, parce que la terre ne pouvait plus rien donner. Vous savez que la terre, pour donner, elle a besoin d'eau, elle a besoin de la pluie. Et là, Dieu, au bout de 3 ans et demi, il va demander à Élie de retourner vers Akab pour annoncer cette fois-ci la pluie. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on s'arrête à ce qu'on vient de lire, on se dit, waouh, mais que s'est-il passé pour que, 3 ans et demi auparavant, Dieu demande à Élie d'annoncer la fermeture du ciel et pour qu'ensuite il lui demande de revenir. Est-ce qu'il y a eu un changement? Il n'y a pas de changement en Israël. Il n'y a aucun changement. Les choses sont restées telles qu'elles étaient comme 3 ans auparavant, 3 ans et demi. Mais ce qui est intéressant, c'est de poursuivre la lecture, de se rendre compte qu'est-ce que Dieu veut faire à travers le prophète Élie. Dieu, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut donner au peuple la possibilité, l'opportunité de prendre position. Parce que le peuple ne savait plus sur quel pied danser. Le peuple ne savait plus. Et lorsqu'Élie va arriver, il va demander au roi Akab, écoute, réunis tout le peuple. Fais venir aussi les prophètes de ton épouse. Les prophètes de Baal et d'Astarté, fais-les venir au mont Carmel et on va voir qui est vraiment Dieu ici en Israël. Et Akab, sur la parole d'Élie, va convoquer tout le peuple. Le peuple va arriver. Et vous savez, quand on parle d'une convocation comme ça, le peuple n'est pas arrivé le même jour. Non, il a fallu attendre plusieurs jours pour que le peuple vienne d'Israël se réunir au même endroit. Et là, c'est ce que nous lisons dans le texte qui suit. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien, frères et sœurs. Pour un rafraîchissement spirituel qui vient de Dieu, nous avons besoin, chacun, chacune, de prendre position pour Christ. Alors que la sécheresse, elle n'est pas seulement naturelle, la sécheresse que vit Israël. Parce que Israël s'adonne aux dieux étrangers. Israël est coupé de son Dieu. Israël est coupé de la vie du véritable Dieu. Celui qui l'a sorti d'Égypte. Celui qui l'a nourri pendant 40 ans, alors qu'il n'y avait pas de champ dans le désert à cultiver. Ils étaient nourris royalement dans le désert, même s'ils étaient tout le temps en train de murmurer. C'est cet Israël qui va abandonner l'alliance qu'il a faite avec Dieu pour s'attacher au Dieu étranger qu'Akab va proposer à travers son épouse Jézabel. Et là, quand Élie revient, Dieu lui dit, va annoncer la pluie. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils auraient pu sauter, waouh, Dieu a eu pitié de nous, enfin, même si les choses n'ont pas changé, ça y est, il va envoyer la pluie. Non, il y a une condition, frères et sœurs, c'est de prendre position. Peuple, venez au Mont Carmel. Si c'est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, nous ne pouvons dire si c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, allons après lui. Mais si ce sont nos idoles que nous avons dans nos vies, alors le peuple ici avait des idoles. Oh, des idoles faites de bois peut-être ou faites de métal. Mais je peux vous dire que nous aussi aujourd'hui, nous pouvons avoir des idoles, frères et sœurs. Quelle est ton idole? Parce que la télé peut être une idole. Parce que le sport peut être une idole, parce que la famille peut être une idole, les enfants peuvent être une idole. Quelles sont nos idoles aujourd'hui qui nous empêchent de prendre position pour Christ? Nous n'avons pas de veau d'or, mais quelles sont nos idoles aujourd'hui? Pour vivre la fraîcheur spirituelle, nous avons besoin de prendre position. C'est ce que Jésus dit, celui qui prend position pour moi, lui aussi il prend position pour lui devant le Père. Quand, jusqu'à quand clocherons-nous, frères et sœurs? Jusqu'à quand? L'autel de Dieu était renversé en Israël. Élie, il a fallu à Élie de rebâtir cet autel parce que les gens étaient dans un mélange de genres. Ils étaient d'un côté avec l'Éternel Yahvé, après ils étaient avec, je ne sais pas, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Mais Dieu dit non! Parce que comme vous et moi savons, lorsque vous prenez une bouteille d'eau minérale, si vous prenez une goutte d'eau d'égout, vous la mettez dans votre eau minérale, elle devient quoi? Vous n'avez pas besoin de mettre des dizaines de litres d'eau dans une bassine d'eau pure pour qu'elle soit souillée. Une seule goutte suffit à la souiller, à la souiller. Dieu leur avait dit, quand vous allez rentrer dans ce pays, faites attention, vous êtes là comme une lampe au milieu de ce peuple qui est dans les ténèbres. Je veux me révéler au monde entier, je veux que le monde entier sache à travers vous, mon peuple, que je suis votre Dieu et que je suis là pour manifester aussi ma révélation et ma bonté envers tous les autres peuples. Mais Israël a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu ressembler à d'autres peuples. Ils ont voulu être comme eux parce que les autres avaient des veaux d'or, avaient des idoles. Ils ont voulu faire comme eux. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous voulons ressembler à ceux que nous devons atteindre pour le salut de Jésus-Christ. Et Dieu nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose encore que vous pouvez apporter aux gens si vous êtes comme eux? Quand je dis être comme eux, ne veut pas dire que nous ne devons pas nous mélanger avec eux. Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour faire écho aux paroles que le Seigneur nous a données dans Jean 17. Il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du. Ça dit, leur mentalité n'est plus une mentalité du monde. Leur mentalité est une mentalité qui est renouvelée sans cesse par la parole et le Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont ainsi renouvelés, ils ont une mentalité du royaume de Dieu maintenant. Ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de manifester leur Père auprès de ceux et celles qui les entourent. Si nous ne prenons pas position, nous ne pouvons pas être disciples, nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui manifestent Christ autour de nous. C'est impossible. C'est la première chose pour un rafraîchissement spirituel. Israël est dans une disette, une sécheresse spirituelle. Dieu dit, va envoyer la pluie, mais à la seule condition, que le peuple fasse un choix, que le peuple prenne position. Et je n'ai pas mis le reste du texte, c'est ce qui va se passer, vous connaissez toute l'histoire avec les prophètes de Baal, vous la connaissez. Et alors qu'ils vont invoquer leur Dieu pour qu'ils consument leur offrande, ben, il n'y aura pas de Dieu qui réponde pour les prophètes de Baal et d'Astarté. Alors que Élie va invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'il aura rebâti l'autel. Est-ce que tu veux rebâtir l'autel de Dieu dans ton cœur? Si sur l'autel de ton cœur, c'est autre chose qui trône, Dieu ne peut pas t'utiliser, mon frère, ma sœur. C'est la même chose pour moi qui suis en train de te parler maintenant. Je n'ai aucun avantage par rapport à toi. Aussi bien toi et moi, si nous ne mettons pas Dieu à la première place dans notre cœur, Dieu ne peut pas accepter la deuxième place. La seule place qui convient à Dieu, c'est la première. C'est la seule. C'est pour cette raison que Élie va rebâtir l'autel. Et quand il rebâtit l'autel, il pose le sacrifice et là, il invoque son Dieu. Et le Dieu répond, Dieu, l'Éternel répond par le feu, il consume l'offrande. Et là, la Bible nous dit que tout le peuple a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ensuite, va venir quoi? La pluie. Nous avons quelquefois besoin de mettre les choses en règle. Frères et sœurs, écoutez, moi, je vous parle en toute honnêteté. Ce n'est pas une question de venir ce matin comme on est là. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, frères et sœurs. Non, ne croyons pas que nous sommes des bons chrétiens parce que nous sommes là ce matin. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais ce n'est pas tout. Le christianisme ne se vit pas dans une salle, il se vit à l'extérieur. C'est ça le christianisme. Ici, nous sommes dans un centre d'adoration, de louange, de formation. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère, aller dehors, les frères et sœurs, c'est là le christianisme. Les gens que nous ne regardons pas, c'est ça le christianisme. C'est pas ici nous sommes des acteurs. Ici c'est un théâtre, nous venons 2 heures, on fait semblant d'être gentil et puis on rentre chez soi, on est méchant. Vous voyez que Dieu ne sait pas, ça Dieu le sait. Il le sait très bien. Moi tu peux me tromper, moi qui suis-je? Moi je suis rien du tout. Mais Dieu il voit que tu es gentil ici et méchant chez toi. À quoi ça sert d'être gentil avec Ulrich, avec Noël, Xavier, tout le monde ici, alors que tu es méchant avec tes collègues? À quoi ça sert? À quoi ça sert, frères et sœurs? Le christianisme, c'est là-bas. C'est quand on sort d'ici, c'est là qu'on commence l'œuvre du ministère. C'est pas ici. Nous sommes là pour vous équiper, pour vous donner les outils, les clés pour vivre à l'extérieur. C'est pour cette raison que Jésus lui-même, il faisait quoi? Il allait de village en... Il allait de ville en... C'est ça, il ne restait pas sur place. Il aurait pu, il avait la carrure, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester à Jérusalem et faire venir tous les peuples en disant « Venez, tout le monde serait venu trouver Jésus. » Mais il ne l'a pas fait, il allait à la rencontre des gens. Même ceux qui ne voulaient pas de lui, il allait quand même les rencontrer. C'est cela le christianisme, frères et sœurs. Lorsque notre tel est occupé par autre chose, nous ne pouvons pas avoir, bien évidemment, de la ferveur pour les choses de Dieu. Nous devons faire des choix, frères et sœurs. Se rafraîchir spirituellement, la deuxième chose, c'est savoir discerner les temps de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, notre génération, c'est que nous disons à Dieu, « Ah Seigneur, la journée est trop courte, je n'ai pas assez de temps. » Je ne peux pas, regarde, je suis en train de courir. Je n'ai pas encore pu récupérer les enfants, j'ai encore une réunion, comment je vais faire? La nounou, elle doit s'en aller dans une demi-heure, moi je ne peux pas rentrer avant 1 heure. Et puis on est là, on dit toutes ces choses à Dieu. Mais Dieu te dit, mon enfant, il faut que tu rachètes ton temps. Ah oui, vous savez, C'est pour ça qu'on peut trouver que Dieu est dur, qu'il est... Non, Dieu dit non, il n'y a pas de négociation. C'est une question de priorité. Si tu me mets à la première place, j'y demeurerai toujours. Mais si je suis à la deuxième, à la troisième ou à une autre place, ben en ce moment-là, tu auras toujours envie de faire d'abord autre chose que te préoccuper de qui je suis pour toi et de ce que je veux faire avec toi. C'est cela qui est plus important. Et donc, frères et sœurs, les temps de Dieu sont importants. Nous sommes en France, nous sommes des chrétiens et nous sommes là, nous croyons. Mais Dieu parle, frères et sœurs. Dieu est un émetteur. Mais si le récepteur est fermé, en ce moment où je suis en train de vous parler, est-ce que vous savez que toutes les radios de France sont là? Toutes les télés sont là. Si j'ai un récepteur, je l'ouvre, j'entends la radio, oui ou non? Dieu parle. Mais si les récepteurs que nous sommes sont fermés, nous ne pouvons pas entendre ce que Dieu nous dit. Dieu parle sur la France. Dieu parle de la France. Dieu cherche des hommes et des femmes en France pour dire, mais qui enverrai-je comme il l'a dit à Isaïe? Qui enverrai-je? Dans ce pays qui est en train de souffrir, dans ce pays qui est en train de languir, qui enverrai-je dans la vie des hommes et des femmes qui sont là desséchés, qui sont dans la sécheresse spirituelle? Peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin est dans une situation comme celle-là. Tu ne connais peut-être pas encore Dieu, mais il y a un encouragement pour toi. Parce que Dieu veut que tu parviennes aussi à la connaissance de son Fils pour rentrer toi aussi dans des temps de rafraîchissement spirituel. Dieu t'appelle aussi à rentrer dans cette alliance. Savoir discerner les temps de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Joël. Voici ce que nous dit un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, Joël. Et vous, fils de Sion, et vous, fils et filles d'Angers, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Dieu est en train de parler de la pluie salutaire. Il est en train d'annoncer la venue de son Fils. Il est en train de dire, écoutez, la pluie naturelle, elle vous permet de faire pousser ce que vous avez planté pour récolter. Il dit, de la même façon, je vais envoyer, comme il dit à Isaïe, je vais envoyer ma parole. Oui ou non? Et ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait sonner. Fait. Donc la parole là, c'est Jésus qui a été fait chair. Il envoie cette parole, il annonce cela. C'est ce qu'il va dire encore dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu annonce là clairement la venue de son Fils. Et vous savez ce qui va se passer. Entre les dernières paroles de Malachie et la venue de Jésus, il y a plusieurs siècles. Au moins 400 ans vont se passer. Il n'y a rien. Vous savez dans quoi? Ceux qui ont reçu justement, ceux à qui cette parole était adressée premièrement, vous savez dans quoi ils vont sombrer? Dans la religion. Ils vont devenir des pharisiens, des sadducéens, hein, de tous les 1-1-1. Ils vont devenir des fervents religieux parce qu'il n'y a plus cette connexion. Vous savez, c'est comme quand vous débranchez, hein, comment on appelle votre box, quand vous la débranchez, est-ce que vous pouvez encore avoir la connexion? Mais non! Ils n'étaient plus branchés à Dieu. Qu'aurait fait ce peuple? Ils se seraient attachés à cette parole pour dire, on reste sur le qui-vive parce que quand le Fils viendra, il faut qu'il nous trouve que nous sommes prêts. Mais non! Ils ont mis en place, ils ont bricolé, ils ont mis en place des religions. Et oui, Dieu tardait à faire venir son Fils. C'est bon, allez, on va se débrouiller par nous-mêmes. On va faire notre petit truc dans notre petit coin. C'est ce qu'ils vont faire. Pendant plusieurs siècles, ils vont vivre comme ça. Ils vont être éloignés de Dieu. Mais Dieu nous dit que nous devons savoir discerner ces temps. Et lorsque le Messie va arriver, voici ce qui est écrit dans Luc. Luc nous décrit un peu dans quelle atmosphère, dans quel milieu. Bien évidemment, Jean-Baptiste déjà, Élie, parce que Jésus l'a reconnu comme tel. Jean-Baptiste, lorsqu'il va arriver, voici le milieu dans lequel, lui, il va être suscité par Dieu. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, donc Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'était écrit dans quel livre? Ésaïe. C'est dans leur livre, oui ou non? Nos amis là, parce que moi je veux pas finir lapidé ce matin. C'était écrit dans leur livre. Mais pourtant, lorsque Jean-Baptiste est enfin manifesté, il n'y a personne qui a égard. Non, personne n'a égard à cela. Normalement, quand ils avaient vu ne serait-ce que Jean-Baptiste, ils seraient dit quoi? Ça y est, le Messie est sur le point de se manifester. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'ils étaient préoccupés par leur religion, ils étaient préoccupés par leur train-train quotidien, ils étaient contents, ils donnaient leur dîme, ils jeûnaient, je ne sais pas, deux ou trois fois par semaine, et puis ils avaient des robes blanches pour se mettre debout partout, pour montrer qu'ils étaient purs. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas l'aspect extérieur, ton cœur, quel est l'autel, quelle est la chose qu'il y a sur l'autel qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel de ton cœur? Tu peux venir, tu peux aller au temple pharisien, tu peux aller au temple sadducéen, scribe, vous pouvez aller au temple sacrificateur, vous pouvez aller au temple, mais qu'y a-t-il sur l'autel de votre cœur? Est-ce que c'est moi qui suis à la première place sur l'autel de votre cœur ou c'est autre chose? C'est ça qui intéresse Dieu. Et Dieu ne le voyait pas dans le cœur de ces hommes. Ils ne le voyaient pas. Ils n'ont pas pu reconnaître le temps de Dieu. Ils n'ont pas pu discerner le temps de Dieu. Ils n'ont pas pu discerner le livre de Daniel. Alors que quand on lit le livre de Daniel, on sait que les choses allaient se passer au temps des Romains. Parce que les royaumes sont bien, bien distingués. Les choses allaient se passer au temps des Romains. Ils avaient tous ces livres, mais ils n'ont pas pu discerner. Tout ce qui les intéressait, c'était de savoir si Jean-Baptiste était le Messie. C'est ce qu'ils vont lui demander. Dans la diapo qui suit. Voilà, ils viennent se faire baptiser, ils viennent voir Jean-Baptiste, ils sont envoyés par les responsables religieux, et ils arrivent, et là ils lui demandent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Dis-nous ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi. Voici ce qu'il leur répond. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le... Ah, donc je suis la voix qu'Ésaïe a annoncée 7 siècles auparavant. Ils n'ont pas fait tilt, ils n'ont pas discerné les temps de Dieu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des... pharisiens. Frères et sœurs, quelquefois nous pouvons être dans ça. Le christianisme n'est pas une religion. Moi, vous savez, quand j'entends à la télé, partout, c'est normal que quelqu'un qui ne connaît pas le christianisme dise que c'est une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. Si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans le panier. Ce n'est pas une religion, nous tombons dans le piège, pardon. C'est une relation. La relation que nous avons perdue à cause du péché, ni plus ni moins, Christ est venu la rétablir. C'est ça, c'est la relation que nous devons avoir avec Dieu. C'est pour ça que depuis quelque temps, nous sommes invités à développer l'intimité avec Dieu, parce que c'est le but du salut, de retourner à Dieu. Le but du salut, ce n'est pas avoir, je ne sais pas, des jaguars et toutes ces choses-là. Non, frères et sœurs. Ça, ce sont les choses de la terre, que la teigne et la rouille atteignent, mais pas des choses qu'on peut amener au ciel, vous savez. Même l'homme le plus riche, il y en a une qui s'est éteinte il n'y a pas longtemps. Elle n'a amené aucun radis. Aucun. Aucun. Eh oui, frères et sœurs, ce ne sont pas ces choses. Jésus dit, mais écoutez, investissez dans le royaume. Parce que les choses du royaume, elles sont éternelles. Elles vous suivent dans votre éternité. près de lui. Mais les choses de la terre, non, frères et sœurs. Donc pendant 4 siècles, ce peuple languit et dans la sécheresse, mais il ne discerne pas les temps de Dieu lorsque Jean-Baptiste est manifesté, parce qu'ils sont préoccupés par leur religion. Jean va leur dire que lui n'est pas le Christ, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et voici, il poursuit dans la diapo suivante. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie. Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de, est-ce que quelqu'un savait? Regardez un peu. Le Messie est au milieu d'eux. Il est en Israël. Personne ne sait qu'il est là. Le seul qui a su que le Messie était né, qu'il a reconnu. Marie, on peut dire que c'est normal parce qu'elle a eu la visite de l'ange. Joseph aussi a été interpellé par l'ange pour se réfugier avec le petit en Égypte. Mais nous savons qu'il y avait Siméon qui était là, à qui Dieu avait fait la promesse que ses yeux ne s'éteindraient pas sans avoir vu le salut d'Israël. Et quand il est venu au temple, alors que Jésus était présenté, la Bible nous dit quoi? Que Siméon a réfléchi, il s'est dit, ah non, maintenant je vais y aller. Non, la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a poussé par le... Eh bien oui, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas reconnaître le Messie, parce qu'il n'avait aucune relation avec le Saint-Esprit. Impossible. C'est poussé par le Saint-Esprit. Quoique l'enfant déjà né, Siméon ne le savait pas. Mais celui qui lui avait fait la promesse, c'est celui qui s'est chargé en même temps de le pousser vers le temple pour lui dire, mais vas-y voir maintenant le salut d'Israël. Et quand Siméon a vu le petit enfant, il a dit quoi? Il a dit maintenant, mes yeux ont vu le salut d'Israël, maintenant ton serviteur peut... Les temps, discerner les temps. Les êtres humains, nous sommes tous là, on regarde le temps. Le temps que nous regardons, c'est toujours le temps politique, c'est le temps économique, c'est le temps scolaire, universitaire, mais le temps de Dieu n'est pas dans ça, alléluia. Dieu a ses temps, mais quand on ne sait pas discerner les temps de Dieu, on peut passer à côté des choses les plus précieuses que Dieu veut faire dans notre vie et qu'il veut manifester à travers nos vies. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il est là au milieu de vous, frères et sœurs. Je veux vous dire une chose qui va peut-être scandaliser les théologiens. Quand on lit la Bible de plus près, le baptême de Jean-Baptiste n'était ni plus ni moins que pour révéler Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que plus tard, Jean-Baptiste va dire, parce que quand il dit ça, il ne sait pas qui est Jésus, lui. Il ne sait pas qui est le Messie, c'est son cousin. Il le voit, mais il ne sait pas que c'est lui. Mais comment Jean-Baptiste va-t-il faire pour reconnaître Jésus? Il va dire, celui qui m'a envoyé m'a dit qu'en baptisant, celui sur qui va s'arrêter le Saint-Esprit, c'est lui. Alléluia. Oh, quelqu'un devait dire amen ce matin. Celui sur qui le Saint-Esprit va s'arrêter, c'est lui le Messie. C'est comme ça que Jean-Baptiste a reconnu. Et plus tard, il dira, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché. Alors, tous ses disciples ont commencé à faire quoi? Ils ont suivi Jésus. Il a dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Parce que mon temps est terminé, fini. Je suis venu pour aplanir ses sentiers, pour préparer son chemin. Alors moi j'ai préparé, j'ai aplani, maintenant j'ai fini. Il dit c'est fini, c'est son temps, c'est le temps du Messie. Voici l'agneau de Dieu. C'est pour cette raison que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême biblique en tant que tel. Quand Paul va arriver dans je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est à Béré, je ne me rappelle plus exactement, mais il va leur demander de quel baptême ils ont été baptisés. Quand ils vont leur dire à Paul, c'est le baptême de Jean-Baptiste, ils vont dire, oh là là. Mais oui, une fois que Jésus est manifesté, révélé, c'est terminé. Jean-Baptiste dit, mais voici le Messie. C'est lui. Comme pour dire, vous devez le suivre maintenant, ne venez plus à moi. Je ne vous serai plus d'aucune utilité. C'est lui désormais le Messie. Discernez les temps, frères et sœurs. Discernez les temps de Dieu. Nous avons besoin de discerner ces temps. Et je vais aborder un dernier point rapidement. Un rafraîchissement spirituel implique de savoir créer et maintenir une atmosphère agréable au Saint-Esprit. Quand on parle de rafraîchissement spirituel, on est d'accord qu'il est question du Saint-Esprit. Donc cela implique de quoi? De créer et de maintenir. Ça, c'est notre responsabilité à nous. De créer et de maintenir une atmosphère agréable. Parce que vous savez que le Saint-Esprit peut être attristé. Et quand il est attristé, eh bien, il a envie de rien faire, en fait. Je peux vous dire ça à la façon humaine. Il a envie de rien faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'attrister. Nous allons lire tout de suite un texte que nous connaissons trop bien dans le livre des Actes des Apôtres. Voici ce que la Bible nous dit. Alors que le jour de la Pentecôte est arrivé, les disciples étaient environ 120. Est-ce que vous croyez que les derniers qui étaient à suivre Jésus étaient 120? Non. Ils n'étaient pas que 120. Ça, ce sont les plus téméraires qui sont allés rester là en disant, « Bon, Jésus nous a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, et avec le Saint-Esprit, vous allez devenir mes témoins. » Et donc, le jour de la Pentecôte arrive, vous savez ce qu'il s'est passé. Le Saint-Esprit va descendre puissamment sur les 120 qui étaient là dans la chambre haute. Mais que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont rester dans la chambre haute en se disant, en parlant en langue pendant, je ne sais pas, toute leur vie, en disant, oui, non. Quand ils ont ça, ils savent que Jésus leur a donné une mission. La première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est aller dans la vallée vers l'extérieur, vers ceux et celles que Dieu veut atteindre. C'est ça le christianisme. Et quand ils vont arriver, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait renié Jésus. Ce même apôtre Pierre, c'est lui qui va avoir le courage de confronter ceux devant qui il ne pouvait même pas reconnaître qu'il était disciple de Jésus. Que s'est-il passé entre-temps? Le paraclétos. Il a dit, Jésus, ne commettez pas la bêtise. Regardez moi-même, je suis resté 30 ans sans rien faire. Dès lors que je n'avais pas revêtu cette puissance d'en haut, je n'étais pas rempli d'elle, je ne pouvais pas m'amuser à commencer un ministère. Il dit, non, attendez à Jérusalem, quand vous aurez reçu ce que moi j'ai reçu le jour de mon baptême, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit vous donnera la force de devenir mes témoins. Pierre, tu auras le Saint-Esprit, tu ne vas plus me renier, tu ne vas plus fuir quand on veut te maltraiter. Non, regardez comment Pierre est devenu quelqu'un de fort. On le jetait en prison, il revenait, il parlait toujours de Jésus, il n'avait rien à faire. Et là, la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent, donc quand Pierre va annoncer la parole, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Il faisait quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est le cocktail qu'il faut toujours dans une église pour maintenir la présence du Saint-Esprit, la présence manifestée du Saint-Esprit. Dans une église où les gens ne sont plus attachés à la parole, où les gens sont attachés à leur propre expérience, le Saint-Esprit démissionne. Dans une église où il n'y a plus de communion fraternelle, ça n'a rien à voir avec une agape. Non. Communion fraternelle, c'est devenir un, c'est le corps. C'est pas l'agape. L'agape, c'est juste une expression de la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, c'est devenir, nous sommes devenus un corps en Jésus-Christ. Lui est la tête et nous sommes les membres de ce corps. C'est ça la communion fraternelle. Et la fraction du pain, c'est ce que nous allons encore faire ce matin. Pour nous souvenir que lui nous a sauvés, lui a donné sa vie. Il s'est sacrifié afin que nous soyons sauvés. Et dans les prières, pas dans la prière, les prières. Donc il y a plusieurs types de prières. La prière, ce n'est pas juste, Seigneur, donne-moi les patates, donne-moi ceci, donne-moi. Non. Il y a plusieurs types de prières. On loue Dieu par la prière. On adore Dieu par la prière. On fait des actions de grâce à Dieu par la prière. On intercède aussi par la prière. On ne va pas seulement avec le caddie devant Dieu. Non. La prière, c'est pour autre chose aussi. C'est pour ça que c'est spécifié ici. Les prières. Et quand ces quatre choses sont présentes dans une église, quand on dit persévérer, ils étaient attachés. Est-ce que les apôtres étaient des hommes qui étaient sans défaut? Non. Non. Ils avaient des défauts. Parce qu'ils étaient des hommes comme vous et moi. Des êtres humains, du moins. Comme vous et moi. Mais ils étaient attachés à l'enseignement des apôtres. Ils étaient attachés à ce corps qu'ils formaient ensemble, à la fraction du pain, et ils persévéraient dans les prières. Et finalement, quand il y a ces quatre éléments, ces quatre ingrédients, que se passe-t-il? Il y a une crainte révérentielle de Dieu qui naît au milieu du peuple. C'est cette crainte qu'il n'y avait plus en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, oui ou non? Ils avaient abandonné la parole de Dieu. Ils ne se considéraient plus comme un peuple mis à part pour Dieu, pour pouvoir manifester la gloire de Dieu au milieu des peuples profanes. Ils avaient abandonné tout ça, donc il n'y avait plus de communion fraternelle. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de fraction du pain, on va dire. Mais c'était les sacrifices qu'ils faisaient et les prières. Mais ils priaient qui? Ils priaient maintenant les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Frères et sœurs, la crainte doit s'emparer de nous. Un rafraîchissement spirituel passe entre autres par ces trois points que j'ai voulu aborder avec vous. Savoir prendre position pour Christ. Savoir discerner les temps de Dieu. Savoir créer et maintenir une atmosphère agréable au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque la crainte s'emparait de chacun, on n'a pas dit la crainte s'emparait de quelques-uns, la crainte s'emparait de chacun. Et la conséquence, c'est quoi? Parce qu'on dit que « eux », c'est une conjonction de « donc ce qui est dit après est lié à ce qui a été dit avant ». Donc, c'est parce qu'il y avait la crainte qu'il y avait quoi? Des prodiges et des signes. Ce n'est pas l'eau. Non, ça passe. L'eau, la vie spirituelle, ce n'est pas, c'est pas un combat, ce n'est pas de se battre, non. Quand tu sais discerner les temps de Dieu, tu es tranquille. Alors que tout le monde s'agite, toi, tu es tranquille. Les gens vont même te demander, mais pourquoi tu ne t'agites pas? Pourquoi tu n'es pas malheureux? Non, parce que je connais les temps de Dieu. La plupart d'entre nous, si nous paniquons dans nos situations, c'est parce que nous ne discernons pas les temps de Dieu. Parce que nous disons, ça y est, la situation, elle est foutue. Mais Dieu te dit, mon enfant, la situation n'est pas foutue. Et c'est simplement de te poser, comme quelqu'un a prié ce matin, comme Marie à mes pieds, et écoute ce que j'ai à te dire par rapport à ta situation. Parce que si tu ne m'écoutes pas, l'être humain a toujours besoin d'entendre quelque chose, oui ou non. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter une autre voix. Frères et sœurs, je termine simplement ce matin. Je vais faire une courte prière. Je vais inviter très rapidement quelqu'un qui passe peut-être par une sécheresse spirituelle et qui se dit, ce matin, le don spirituel qui a été donné, je pense, je crois, va dans ce sens aussi. Tu es là dans le gouffre et tu ne sais pas comment en sortir. Simplement, s'il y a des gens qui ont besoin de vivre un rafraîchissement spirituel, je vais simplement vous inviter à vous lever à votre place maintenant. Très rapidement, je vais faire une prière, il n'y a pas d'imposition des mains. Simplement, alors que tu passes par une situation difficile, tu passes par un désert, comme David est passé par le désert en son temps. Et David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, près des eaux paisibles pour un rafraîchissement. Ce matin, simplement, tu passes peut-être par des moments de sécheresse, mais Dieu te dit, David a dit, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, il passe, il est de passage, il ne s'arrête pas, il est de passage. Écoute bien ce que je te dis ce matin, tu es de passage, mais pour que tu arrives au bout où tu vas retrouver ton Seigneur, pour le voir tel qu'il est, alors que là seulement tu sais qu'il est avec toi, pour que tu aies conscience de cela, je te dis simplement, il faut que tu prennes position pour Dieu. La situation que tu vis. Seigneur, béni soit ton nom. Loué sois-tu, Seigneur. Tu ne nous as pas créés pour vivre dans des déserts spirituels. Tu es un être de relation et tu nous as créés comme tel aussi, Seigneur. Seigneur, merci infiniment parce que maintenant, je prie pour des temps de rafraîchissement spirituel dans la vie de ceux et celles qui se sont levés ce matin. Père, je te prie maintenant pour que leur vie ne soit plus religieuse, qu'elles aient, ces personnes debout, une relation véritable avec toi, une intimité. Oui, enfin, Seigneur mon Dieu, qu'elles prennent position pour toi, qu'elles sachent discerner tes temps, parce que tu es le Dieu qui nous permet de discerner ta volonté lorsque, Seigneur, nous acceptons le renouvellement de l'intelligence. Alors, Seigneur, merci de leur accorder cette grâce. Je te bénis, je te dis, louange et honneur te soient rendus. Honneur à toi, Seigneur. Victoire à toi, parce que tu fais ton œuvre ce matin. Tu touches les cuits, tu changes les cœurs. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Que Dieu soit béni.